Voice of Indonesia.
Bonsoir, chères auditrices. Comment allez-vous? Je suis très fière de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui, vendredi le 15 février 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et nous commençons par le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La Russie n'interviendra pas lors des prochaines élections en Indonésie ». L'ambassadrice de Russie en Indonésie, Madame Lyudmila Vorobieva, a déclaré que les relations bilatérales restaient solides avec l'Indonésie. Elle a affirmé qu'il n'y avait aucune animosité après que le terme « propagande russe » ait été utilisé dans le débat politique en vue de la prochaine élection présidentielle. Lors d'une conférence de presse tenue à la résidence de l'ambassadeur de Russie à Jakarta, mercredi, l'ambassadrice de la Russie a expliqué le rôle de la Russie dans la promotion de la coopération avec les parties étrangères et le maintien de la sécurité internationale et des règles juridiques.
It's a firm policy that the Russia will not intervene.
C'est une politique ferme que la Russie n'interviendra pas dans les affaires intérieures de n'importe quel pays, en particulier dans le processus électoral. La Russie n'interviendra pas dans le processus électoral indonésien que nous considérons comme de bons amis et partenaires près de notre pays. En ce qui concerne la déclaration de propagande russe, l'ambassadrice Lyudmila Vorobieva a déclaré que l'ambassade de Russie ne savait rien de l'individu russe qui aurait contacté l'opposition, sauf pour assister aux événements officiels. Le président Joko Widodo reçoit les lettres de créance de 11 ambassadeurs étrangers. Le président Joko Widodo a reçu les lettres de créance présentées par 11 ambassadeurs étrangers en Indonésie lors d'une cérémonie qui s'est tenue mercredi au Palais de l'État à Jakarta. 8 d'entre eux sont domiciliés à Jakarta et 3 autres hors d'Indonésie. Comme cité par l'agence de presse Antara, il était accompagné de la première dame Iriana, tandis que le 11 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires étaient vus en compagnie de leurs épouses respectives. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, le ministre secrétaire d'État Pratikno et le secrétaire du cabinet Pramono Anung étaient également présents à cette cérémonie. Les 11 ambassadeurs de pays amis reçus par le président Joko Widodo sont entrés outre l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Chili, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tunisienne et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République slovaque. Le président Joko Widodo encourage le dialogue politique à briser la crise vénézuélienne. Le président indonésien Joko Widodo encourage le dialogue politique afin de réduire les crises économiques, politiques et humanitaires survenues au Venezuela. Comme le reportait Republika Online, le ministre indonésien des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a transmis cette information après la réception des lettres de créance de 11 ambassadeurs de pays amis servant en Indonésie, dont l'un d'eux provient du Venezuela au Palais Merdeka, Jakarta. Elle a souligné que l'Indonésie respectait le principe de ne pas intervenir les affaires intérieures d'autres pays. Malgré cela, le président a souligné la situation des millions de Vénézuéliens qui ont choisi de quitter le pays. Le président avoue que la condition montre la nécessité des Vénézuéliens pour être remarqués. La ministre Puan Maharani apprécie les performances culturelles des 60 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Cambodge. Puan Maharani, ministre de la Coordination du Développement Humain et de la Culture indonésienne, a apprécié a soutenu le festival culturel de 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et le Cambodge qui s'est tenu au bâtiment de théâtre de Chak Tomuk à Phnom Penh au Cambodge mercredi soir. La ministre Puan espère que cette performance rapprochera la communauté indo-cambodgienne et qu'à l'avenir, les relations entre les deux pays pourront continuer à se développer dans une atmosphère d'amitié, de confiance et de respect mutuel. Jusqu'à présent, le soutien de la coopération a été établi avec le gouvernement cambodgien, y compris dans les domaines de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la défense et de l'aviation civile. La participation de l'Indonésie à cet événement a pour objectif de présenter la culture indonésienne qui est diversifiée, tolérante, pleine de valeurs sociales et culturelles et la grandeur moderne à la société cambodgienne et à l'inverse. Un enfant indonésien a reçu le prix du concours international des beaux-arts du gouvernement de la République tchèque. 10 élèves indonésiens et une école indonésienne ont reçu le prix du concours international des beaux-arts enfants de l'IDIS 2019 du gouvernement de la République tchèque. Le prix a été remis par l'ambassadeur de la République tchèque en Indonésie, Ivan Otek, jeudi 14 février 2019, à la résidence de l'ambassadeur de la République tchèque à Jakarta. Plus de 20 000 œuvres d'art des enfants de 79 pays ont participé au concours de cette année. De l'Indonésie, sur 336 œuvres présentées, une seule étudiante qui a reçu une médaille. La médaille a été remise à Kenar Alfaro Hadinata, l'étudiant à l'école visuelle Nirvana à Surabaya, dans l'est de Java.
So, as I said, this competition was created to commemorate.
Ainsi, comme je l'ai dit, ce concours a été organisé pour commémorer les victimes de la Seconde Guerre mondiale dans le village de Lidice, en République tchèque. Rappelons également que dans tous les conflits, généralement les femmes et les enfants qui sont les plus touchés. C'est pourquoi, dans le monde moderne, nous faisons tous les efforts pour prévenir les conflits. Peu importe que vous soyez chrétien, musulman ou bouddhiste, tout le monde éprouve les mêmes souffrances. Outre l'appréciation aux 10 enfants indonésiens au concours artistique, le gouvernement de la République tchèque a également remis une plaque d'appréciation à l'école islamique Fajar Hidayah pour aider à éduquer les orphelins. L'ambassadeur Ivan Otek a demandé à tous les participants de prendre part au concours de l'année prochaine et d'encourager leurs camarades à faire de même. L'Indonésie et l'Eurasie ont convenu de renforcer leurs relations économiques. La ministre du Commerce, Enggar Tiesto Lukita, et la ministre de l'Intégration et de la Macroéconomie de la Commission économique eurasienne, Tatiana Valovaya, ont signé le protocole de coopération visant à améliorer les relations économiques entre les deux pays. Le ministre Enggar Tiesto Lukita, à Jakarta, a déclaré jeudi que la coopération économique avec l'Eurasie ne pouvait pas mener directement à l'accord de libre-échange, car ils appliquaient une procédure et des normes de sorte que le protocole de coopération devienne un accord. Avec l'existence de cet accord, il est optimiste que la valeur du commerce entre l'Indonésie et l'Eurasie qui atteint actuellement 2,79 milliards de dollars américains, doublera dans moins de 5 ans. Il espère que la signature de cet accord et le forum des entreprises pourraient avoir lieu au deuxième trimestre de cette année. Après la signature du protocole de coopération, il y aura le partage des informations pour se connaître les produits et les marchés les uns et les autres. Chers auditeurs, c'est tout le journal d'aujourd'hui.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire ayant pour le titre « La visite du prince héritier saoudien en Asie ». Cette semaine et la semaine prochaine, plusieurs pays asiatiques accueilleront la visite du prince héritier du Royaume d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman. Avant d'arriver à Jakarta lundi prochain, le prince Mohammed se rendra au Pakistan, en Chine et en Malaisie. La visite au Pakistan a rassemblé plus d'une 1000 personnes qui investiraient 15 milliards de dollars américains. Même si cela a beaucoup aidé, le Royaume saoudien n'était pas très populaire au Pakistan. Même il y a 4 ans, le Parlement pakistanais avait rejeté l'implication des forces saoudiennes au Yémen. Dans son ordre du jour, le prince Mohammed bin Salman s'est rendu en Chine et en Inde. Ces deux pays deviennent des clients duels du Royaume. Tandis que l'Indonésie était la destination de la visite après la visite du roi Salman il y a 2 ans. Il y a des intérêts du Royaume saoudien en Indonésie qui sont les plus grands visiteurs du rituel du Hajj chaque année. En outre, il est prévu d'accroître les investissements après la signature de l'accord qui atteint 1 milliard de dollars américains. En fait, la partie indonésienne espère de plus grands investissements. Malheureusement, le programme qui a été signé n'a pas été mis en œuvre. La visite du prince Mohammed bin Salman en Asie se terminera en Inde, qui se tiendront bientôt les élections. L'Inde est un gros consommateur de pétrole saoudien. Sa visite en Asie il y a 2 ans était saluée et des promesses d'investissement ont été faites. La clé est de savoir si l'Arabie saoudite veut réaliser sa promesse d'investissement. Sinon, l'arrivée du prince n'est qu'une visite ordinaire. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 15 février. Le 15 février 1958, la formation du gouvernement révolutionnaire de la République d'Indonésie. Le gouvernement révolutionnaire de la République d'Indonésie, généralement appelé PRRI, était l'un des mouvements d'opposition entre le gouvernement régional et le gouvernement central Jakarta, qui a été déclaré le 15 février 1958 avec un ultimatum du conseil de lutte dirigé par le lieutenant-colonel Ahmad Hussein à Padang, Sumatra-Ouest, l'Indonésie. Ce mouvement a reçu des remarques des régions de Sulawesi Nord et du Sulawesi Central, où le 17 février 1958, la région a déclaré qu'elle soutenait le PRRI. Ce conflit a été fortement influencé par les demandes de mise en œuvre d'une autonomie régionale plus large. L'ultimatum n'est pas une demande de formation d'un nouvel État ou une rébellion, mais plutôt une protestation sur la manière dont la Constitution est appliquée. Le 15 février 1989, les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan. Les forces soviétiques sont arrivées pour la première fois en Afghanistan le 25 décembre 1979 et le dernier retrait des troupes a eu lieu le 2 février 1989. L'Union soviétique a ensuite annoncé que toutes ses forces avaient été retirées d'Afghanistan le 15 février 1989. En raison des nombreux coûts et difficultés inutiles de ce conflit, la guerre soviéto-afghane est souvent considérée comme la guerre du Vietnam de l'Union soviétique. Le 15 février 2003, manifestation anti-guerre en Irak. La manifestation a eu lieu le 15 février 2003 et a réuni 600 villes du monde entier, comptant au moins 10 millions de manifestants. Cette manifestation est entrée dans Guinness World Records en tant que plus grande manifestation anti-guerre dans l'histoire. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
la chanson de Kina Nasution, dont le titre est Saat Harapan Tiba. Cette chanson parle de personne qui a trouvé un nouvel espoir. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Et maintenant, écoutons mon Indonésie.
Chers amis de l'antenne, nous continuons notre programme avec mon Indonésie ayant pour le titre « Les exportations de véhicules motorisés sont plus faciles ». Le gouvernement facilite l'exportation de véhicules motorisés sous forme finie. La simplification des procédures d'exportation a été réalisée par la publication du directeur général du règlement des douanes le 11 février. Ce qui est inclus dans la simplification dans ce règlement est l'importation de véhicules complètement construits ou CBU vers la zone douanière, lieu de chargement avant la soumission du document de notification d'exportation de marchandises. L'importation n'exige pas de note de service d'exportation et la correction de la notification d'exportation de marchandises au plus tard 3 jours après la date de départ du navire. Le ministre coordinateur des affaires économiques Darmi Nasution au terminal pour le véhicule du port d'Indonésie Tanjung Priok Jakarta a déclaré mardi que la simplification des procédures d'exportation des véhicules à moteur CBU est l'une des politiques à court terme prises par le gouvernement. Cette politique devait immédiatement augmenter les exportations. Le ministre Darmin a reconnu que pour surmonter le déficit de la balance commerciale et l'affaiblissement de la balance de transactions courantes, le gouvernement devait adopter immédiatement des politiques encourageant l'augmentation des exportations, l'augmentation des investissements et le contrôle des importations. À la même occasion, la ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que les objectifs de la politique faisaient de l'Indonésie comme plus grand exportateur de voitures en Asie. Sri Mulyani expliquait que la simplification de ces règles simplifierait le processus en intégrant les données incluses dans le système antenne du terminal pour véhicules en Indonésie et dans le système de la Direction générale des douanes. Il a ensuite procédé à la numérisation du code d'identification du véhicule, ou VIN, pour chaque véhicule motorisé à exporter. Pendant ce temps, le ministre de l'Industrie, Airlangga Hartarto, s'est félicité du règlement visant à encourager les exportations de produits automobiles. Selon lui, cela est très significatif pour les industries indonésiennes en concurrence avec d'autres pays. Serviteur, c'était mon Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Cahayalanku
Voice of Indonesia.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour tout le monde. Vous pouvez écouter notre programme dans la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale des peuples indonésiens. Chers auditeurs, Tegal est l'une des régions autonomes de la province de Java Central. Cette ville est située sur la côte nord de Java Central, à environ 165 km à l'ouest de Semarang ou à 329 km à l'est de Jakarta. En plus d'être célèbre pour ses délices culinaires, Tegal compte également de nombreuses destinations touristiques intéressantes comme le marché de Slumpring. Ce marché se trouve au village de Cempaka, sous-district de Bumi Jawa, au district de Tegal. Chers auditeurs, si vous êtes à Tegal le dimanche matin, vous pourrez vous promener dans le lieu unique, le marché Slumpring. Pourquoi est dimanche? Parce que ce marché est ouvert uniquement le dimanche de 7h à 12h. Nommé le marché Slumpring, car il correspond à sa situation. Slumpring en javanais signifie jardin en bambou ou feuilles attachées au bambou. Ce marché a une belle atmosphère fraîche et rustique typique car beaucoup de bambous épais couvrent ce lieu. Parce que cet endroit a beaucoup de bambous, l'argent utilisé pour les activités d'achat et de vente est également la devise en bambou qui est transformée en boîte et spécialement imprimée. Cette monnaie s'appelle Irat. Voilà l'unicité du marché Slumpring. Et pour obtenir de l'argent Irat, vous pouvez l'échanger au changeur sur ce marché. Un Irat vaut 2500 roupias. Sur le marché de Slumpring, vous pouvez trouver divers culinaires traditionnels tels que des ignames bouillis, du maïs grillé, serabi, du riz au maïs, des boissons bandrek, le tepochi, wedang tape, etc. Et pour vous qui aimez prendre des photos, là, il y a beaucoup d'excellents spots photos qui sont instagrammables, par exemple, à l'entrée du marché ou de danse, qui est plein d'ornements traditionnels. Chers auditeurs, les commerçants qui vendent au marché de Slumpring sont tous des villageois. Les visiteurs peuvent manger des plats traditionnels à l'ombre des bambous en écoutant de la musique jouée par la jeunesse locale, en profitant d'une atmosphère rurale fraîche et naturelle. Pour arriver au marché de Slumpring, c'est facile. Vous pouvez prendre de voiture ou moto. Parce qu'il est maintenant célèbre, ce lieu touristique est le plus populaire pour des touristes. Et si vous souhaitez ressentir une sensation du marché, vous pouvez visiter ce marché de Slumpring lors de votre visite à Tegal, Java Central. Chers auditeurs, c'est The Voice of Indonesia avec le magazine Cultural.
Voice of Indonesia.
jolak imanmu korban kemelutiri. Tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang, anganmu melayang, terbawa asap nirwana, sekejap tenggelam, karisma. Tak tahu apa yang terjadi, semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang. Melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang jauh, melayang, anganmu melayang, terbawa asap nirwana.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Januar Christy intitulée Melayang. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur et en pour titre grâce à la qualité mondiale, des équipements de défense indonésienne pourraient être commercialisés en Égypte. Soyez toujours avec nous sur www.voynews.id. Les principaux produits des équipements de défense ou alutsista fabriqués par l'Indonésie sont commercialisés potentiellement sur le marché de l'armement en Égypte et dans d'autres pays de la région africaine, car leur qualité est déjà de classe mondiale. Dans une déclaration écrite reçue par Antara à Denpasar, Bali, l'ambassadeur d'Indonésie en Égypte, Helmi Fauzi, a déclaré que les principaux produits du système d'armement indonésien étaient utilisés dans de nombreux pays et avaient des prix concurrentiels pour pouvoir concurrencer avec d'autres producteurs d'armes. Il expliquait que le quartier général de TNI avait exploré la coopération de défense entre l'Indonésie et l'Égypte. Cela a été marqué par une visite de travail du chef de l'agence de renseignement stratégique, le général de division de TNI Kisenda Wiranata Kusuma en Égypte du 6 au 8 février 2019. Serviteur, au cours de cette activité, Kisenda a organisé plusieurs réunions, y compris avec les responsables de la direction du renseignement militaire de l'Égypte. Lors de la réunion, il a évoqué l'idée exploratoire de partager des informations de renseignement entre les deux pays. En outre, il a reconnu que les informations sur la production d'équipements de défense indonésien étaient encore moins disponibles en Égypte. De plus, l'industrie de la défense n'est pas non plus optimale pour mener bien la socialisation et la promotion dans le pays des mille tours. Même lors de l'exposition de la défense égyptienne en décembre 2018, à laquelle l'ambassade indonésie au Caire a spécifiquement participé, il n'existait qu'une seule industrie de la défense privée et aucune des entreprises d'État de la défense n'y participait. En ce qui concerne des efforts visant à améliorer la promotion des équipements de défense indonésiens, l'ambassadeur Helmi a rencontré le ministre de la Défense Riamizat Riyakudu. Au cours de la réunion, les participants ont discuté des possibilités d'accroître la coopération entre l'Indonésie et l'Égypte dans le domaine de la défense. Il espère que le ministre de la Défense pourra aider à promouvoir les équipements de défense indonésiens en Égypte. L'un des moyens consiste à explorer l'amélioration de la coopération en matière de défense entre les deux pays. Selon lui, jusqu'à présent, les marchés africains, y compris l'Égypte, est un marché potentiel pour les produits Nusantara. Le café et l'huile de palme, par exemple, sont un type de produit qui se vend bien. De plus, le président Joko Widodo a invité les hommes d'affaires à voir le potentiel du marché africain. Serviteurs, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir avec comme titre « Grâce à la qualité mondiale, des équipements de défense indonésiens pourraient être commercialisés en Égypte ». Merci de votre attention. À demain.
Esok lusa kita akan berjumpa. Telah lama kita berpisah. Rindu hatiku selalu menggoda. Oh asmara, jemputlah dia. Katakan padanya ku nanti dia. Bahagia, jiwa serasa telah bersama.
Voice of Indonesia.
Semoga ruang menjaga segala yang tersimpan di
auditeurs, voilà la chanson de Harvey Malaiholo intitulée Kutitipkan Cinta. Maintenant, nous continuons notre programme aujourd'hui avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Le but de Franz Cornelis Dianbunda à créer cette chanson est de rendre la communauté et les touristes de Maumere heureux. Créée en 2011, la chanson intitulée Gemu Famire a commencé à être célèbre en Indonésie en 2014. Avec son frère Alfred, Franz qui enseigne au lycée à Maumere, il a été inspiré par la façon d'enseigner de ses professeurs quand il était petit. Gemu signifie entrer dans la bouche, tandis que famire et signifie détonne dans une échelle musicale. Non seulement les paroles qu'il a créées, lui et son frère ont aussi créé une danse pour faire danser tous ceux qui l'écoutent. Bon, chers auditeurs, voici Franz et Alfred dans la chanson intitulée Gemu Famire.
Roposai.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'est tout l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta pour ce soir. On se retrouvera demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt!